France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Si la démocratie est, selon son étymologie et la définition minimale qui en découle, le régime aspirant à confier le pouvoir au peuple, alors n'est-elle pas intrinsèquement associée au processus du référendum ? Le référendum, voici une élection qui a pour but non de désigner des représentants, ni de choisir des chefs, mais de permettre aux citoyens de voter sur des idées et de trancher directement des questions politiques en participant activement au destin de la cité. Certes, mais en ce cas, comment expliquer que de Napoléon Bonaparte au leader populiste d'aujourd'hui, le référendum ait si souvent été utilisé pour faire reculer la démocratie en la retournant contre elle-même ? Comment expliquer qu'en France, cette pratique a été écartée par les différents présidents qui se sont succédés au pouvoir depuis le fameux référendum de 2005. Le référendum est-il le rite par excellence de la démocratie, dont se méfieraient ceux qui ont peur du peuple ? Ou bien, derrière ses atours républicains, une pratique fondamentalement démagogique ? Osons le mot, une pratique autoritaire. Le référendum, rite démocratique ou outil démagogique ? Posons-nous la question, sans en préjuger, aux côtés de Mathieu Slama, essayiste et auteur de « Adieu la liberté » aux Presses de la Cité, de Raphaël Dohan, essayiste aussi et auteur de « Faire de la France une démocratie » aux éditions Passé Composé, et de Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match. Je voulais vous réunir aujourd'hui pour discuter de la question du référendum parce que je voulais partir d'un constat qui, je crois, est frappant ces dernières années. Chaque fois qu'en France, il y a eu une crise politique, une crise citoyenne, depuis les Gilets jaunes jusqu'à la dernière dissolution, nous avons vu la question du référendum se réinviter dans le débat public, avec cette petite musique consistant à dire « Et si le référendum était la solution magique qui permettrait de dépasser tous les blocages de la vie politique actuelle ?» Lors de ses vœux présidentiels, Emmanuel Macron lui-même a dit qu'en 2025, alors une formule un peu sibylline, mais qu'il entendait demander aux Français de trancher certains des sujets déterminés qui allait guider la vie de la France. Alors, je voulais d'abord vous écouter, Raphaël Dohan, vous qui êtes très favorable au référendum. Vous avez publié récemment un livre qui s'appelle « Faire de la France une démocratie », où vous soutenez l'idée selon laquelle il faudrait réintroduire davantage de démocratie directe dans la vie politique française. Pourquoi pensez-vous que cette solution permettrait de sortir des crises que nous traversons ?
Je pense que le référendum est un outil qui permettrait de sortir de la crise en particulier que nous traversons depuis la dissolution, et plus généralement du sentiment, disons, d'inactivité et de marasme qui frappe la République française depuis une vingtaine d'années. Parce que précisément, le référendum, à mes yeux, est un outil d'action, c'est un moyen de gouvernement. Il faut toujours rappeler que le référendum, ce n'est pas un vote sur une idée ou une question, c'est sur un projet de loi. Donc en fait, il s'agit de faire adopter une loi par le peuple directement. Donc en fait, c'est un moyen de réforme. Et il me semble qu'aujourd'hui, si on veut que la France puisse se réformer, puisse avancer sur différentes questions fondamentales, le recours au peuple, le recours à la démocratie directe, est la meilleure manière en fait de trancher des dilemmes qui aujourd'hui sont toujours, enfin que la classe politique n'arrive pas à trancher, et on le voit depuis une vingtaine d'années.
Alors Mathieu Slama, à l'inverse, je vous ai entendu dire que le référendum était une sorte de trompe-l'œil, que derrière sa dimension purement démocratique, eh bien en fait le référendum pouvait, selon vous, accompagner et même être le symptôme d'une sorte de pente autoritaire et antidémocratique dans laquelle la France pourrait rentrer. Alors cette position, elle est très contre-intuitive, mais pourquoi estimez-vous que le référendum n'est pas consubstantiel à la démocratie ?
Alors, vous savez, je vais être un peu provocateur, mais des fois, quand on hésite sur un sujet, il y a une manière de trancher qui est de voir qui sont les plus grands défenseurs d'une mesure ou d'une initiative ou d'un processus, par exemple, comme le référendum. Alors, il y a des gens très estimables comme notre invité, mais il y a aussi, en majorité, et dans les pays européens et en France en particulier, les extrêmes droites et les partis populistes qui, en fait, nous disent que le référendum est la solution à toutes les crises, la solution à tous les problèmes du monde. Avec en fait une idée sous-jacente, c'est que la démocratie meurt, je me fais un peu leur ventriloque, meurt du gouvernement des juges, de l'état de droit, des règles en fait qui font que nous vivons dans un pays de liberté, dans un pays où nos droits en fait sont respectés. Et les partis populistes, notamment d'extrême droite, en Europe et en France, nous disent on va casser ces règles de droit en faisant appel directement au peuple, notamment sur des sujets comme l'immigration, l'insécurité, etc., pour en réalité faire passer des mesures qui ne passeraient pas sinon le portique de l'État de droit, qui en fait est le garant absolument indispensable, essentiel de nos libertés fondamentales. Et le référendum, d'ailleurs dans l'histoire, on y reviendra peut-être, a souvent été un outil par définition populiste, mais surtout un outil autoritaire. Et il y a aussi cette dimension-là qui est de confirmer l'autorité d'un chef par rapport au peuple et aussi de contourner les corps intermédiaires. Et on dit souvent la démocratie, c'est la souveraineté populaire, mais c'est aussi la démocratie, les contre-pouvoirs, les juges administratifs, constitutionnels, etc. Et c'est aussi les parlementaires, c'est aussi donc les corps intermédiaires, finalement, qui font en sorte que la démocratie soit non seulement vivante, mais aussi respecte des procédures, des règles qui, je le redis, nous protègent de l'arbitraire, qui nous protègent de mesures qui seraient attentatoires à nos libertés.
Certes, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que la question du référendum, elle ne s'invite pas gratuitement dans le débat. Même s'il peut y avoir en effet des partis politiques autoritaires, d'extrême droite, qui défendent ce retour au référendum. Le cas par exemple des Gilets jaunes, il est intéressant parce que ce mouvement social, il est né initialement sur une colère qui n'avait absolument rien à voir avec la question constitutionnelle ou avec la question des modes de délibération et de vote, puisque c'était une révolte contre la taxe carburant et contre une sorte de précarité qui commençait à s'emparer d'un nombre croissant de citoyens. Et progressivement, assez vite d'ailleurs, les Gilets jaunes ont, au-delà de leurs revendications socio-économiques, ont porté une revendication qui était celle, par exemple, du référendum d'initiative citoyenne, comme si ils avaient voulu dire que leur véritable blocage, c'était une sorte de cassure par rapport aux représentants politiques. Est-ce que vous pensez, Lou Fritel, que derrière le référendum, il y a cette cassure-là entre les représentants politiques, les élus, pour le dire simplement, et le corps des citoyens et des électeurs ?
Pour remonter encore moins loin que les Gilets jaunes, on a un exemple assez récent, c'est les législatives de 2024. Lors de ces législatives, il y a une formation politique qui est arrivée en premier au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. Il y a une coalition qui est arrivée en premier, c'est la gauche, la coalition du Nouveau Front Populaire. Et à la fin, c'est le centre, allié aux Républicains avec qui ils n'avaient pas fait campagne, qui se retrouve à gouverner le pays. Donc effectivement, ce genre d'exemples qui se sont multipliés ces dernières années ont créé un sentiment chez les citoyens de non-écoute de la part de leurs élites, de leurs représentants. Et la demande, effectivement, de représentation directe, elle émane en partie de ça, mais elle émane aussi d'autre chose. Le régime de la Ve République est un peu bâtard sur certains points, notamment la question c'est très verticale. C'est une démocratie représentative, mais avec une culture du dialogue entre le président de la République et son peuple et les électeurs qui a été problématique à une époque. Je veux dire, quand le général de Gaulle introduit l'élection du président de la République au suffrage universel direct, ça produit une motion de censure, le gouvernement tombe. Vous avez François Mitterrand qui a écrit le coup d'État permanent. C'était pas quelque chose d'évident. Au contraire, c'était le début pour certains de l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle sorte de dictature. En l'occurrence, ça ne s'est pas passé de cette façon-là et on a toujours promis plus ou moins aux Français qu'ils auraient voix au chapitre. Et c'est vrai que nous avons toujours usé du référendum. Jusqu'en 2005. Pourquoi ? Parce qu'en 2005, les Français votent contre ce que veulent la majorité de leur classe politique, de la classe médiatique, des élites. Personne n'en tient compte. À la fin, vous avez le traité de Lisbonne, qui est ratifié par le Parlement. On ne tient pas compte de l'avis qui a été pris à ce moment-là. Et tout le monde dit encore aujourd'hui que le vote qui a été fait à ce moment s'est fait contre celui qui posait la question. C'est complètement faux. Et dans l'histoire du référendum en France, à part 69, ce qui provoque le départ du général de Gaulle, vous n'avez pas une seule fois le peuple qui vote contre la personne qui pose la question. Ça, c'est arrivé en revanche en Italie, par exemple, avec Matteo Renzi. Mais ce n'est pas notre histoire.
Oui, alors ça, l'exemple du référendum de 2005, Mathieu Slama, c'est une objection qu'on pourrait vous faire quand même. Parce que je vous entends sur le fait que, dans certains cas, le peuple pourrait être invoqué pour court-circuiter des représentants, des corps intermédiaires qui représentent la démocratie représentative. Mais le référendum de 2005, qui concernait la question européenne, sur laquelle la classe politique était elle-même très divisée, on ne pouvait pas dire que la gauche était pour et que la droite était contre, et réciproquement. Il y a eu un débat qui était un débat politique, citoyen, de qualité, qui était un débat de fond. Alors, c'est un peu un argument qu'on reprend très souvent, mais le peuple s'est prononcé de façon claire, à 55% de mémoire, contre cette proposition. Et ensuite, elle a quand même été introduite quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir. Est-ce que vous pensez pas quand même qu'il y a, dans la manière dont les dirigeants se sont comportés vis-à-vis du référendum, une forme, sinon de déni de démocratie, du moins de peur et de refus de la voix qui a été donnée par les électeurs?
Moi, quand on parle de... D'abord, moi, ça a été ma première expérience de citoyen, parce que j'ai voté pour la première fois à l'occasion de ce référendum, et je me rappelle très bien, du coup j'avais 18 ans, je me rappelle très bien des débats à l'époque qui en effet étaient assez polarisés, assez vivants, et en fin de compte, c'est vrai, pour le coup, assez intéressant. Maintenant, ce référendum, moi je trouve, au risque de choquer, qu'on en fait un peu beaucoup autour de cette histoire. Je rappelle d'abord que ce fameux traité de Lisbonne, moi je ne dis pas que je suis pour ou contre ou quoi que ce soit, hein, ce n'est pas du tout mon sujet, mais ce fameux traité de Lisbonne, c'était une promesse de Nicolas Sarkozy pendant l'élection présidentielle, où il a dit, si vous votez pour moi, je mettrai en place ce traité de Lisbonne, qui reprenait, pas tout d'ailleurs, hein, certains points du traité de projet constitutionnel, qui apprenait certains points, mais c'était dit ouvertement par Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle. Donc déjà, sur la question du déni de démocratie, j'émettrais un bémol par rapport à ça. Mais plus important encore, je dirais une chose en comparant avec le Brexit. Pendant le Brexit, il y a eu les débats, pareil, très animés, etc. Et puis les Anglais ont voté la sortie de... Alors c'est encore plus radical, là, c'est la sortie de l'Union européenne. Aujourd'hui, on leur demande la même chose. Tous les sondages montrent qu'ils voudraient revenir dans l'Union européenne. Donc en fait, je dis que le référendum, c'est aussi quelque chose qui est dangereux et qui est problématique du point de vue du résultat, parce que c'est lié à une opinion publique à un instant T. Et les opinions publiques, c'est changeant, c'est mouvant, et quand vous posez des questions aussi complexes, qui engagent autant la vie d'une nation, autant la vie même d'une communauté internationale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous ne pouvez pas, à mon sens, régler la question à coup de référendums qui vont forcément jouer aussi sur les affects, avec des campagnes populistes qui vont jouer sur les peurs, sur les émotions, etc. Et qui vont, au fond, créer une sorte de démocratie d'opinion, là où, au contraire, on a besoin d'une démocratie de rationnelle qui s'appuie aussi sur les faits, etc., etc. Et j'ai eu une chose, par exemple, la campagne pour le Brexit a été polluée par les fausses informations, les fake news, etc. Donc, il y a un vrai danger aussi dans le fait de confondre la question de l'opinion publique, parce que la notion de peuple, au final, à laquelle les partisans du référendum font écho, moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Il y a une opinion publique, et cette opinion publique, elle dépend aussi de plein de facteurs, de la manière dont une campagne se déroule, etc., etc.
Ça, c'est très intéressant, parce que l'argument que vous employez, celui de la versatilité de l'opinion publique, je crois qu'il répond directement à un passage de votre livre, où, pour défendre l'idée du référendum, vous soutenez la thèse selon laquelle le monde politique, celui des élus, celui des représentants, est souvent divisé sur des questions, et donc il ralentit en quelque sorte la prise de décision, alors qu'il y aurait une possibilité par le référendum de dégager des majorités extrêmement claires. Vous donnez deux exemples qui sont assez éloquents sur la fameuse loi de l'aide à mourir. Vous citez un sondage selon lequel 92% des Français seraient favorables à l'aide à mourir pour des maladies, pour des malades qui seraient incurables en grande souffrance. Alors qu'évidemment, au Parlement, on s'en souvient, la classe politique a été un peu plus divisée ou plus lente, ou en tout cas moins tranchée dans cette direction. Et vous donnez un deuxième exemple qui est encore plus éloquent sur la question des drogues. Vous rappelez que 62% des Français aujourd'hui seraient favorables à une vente du cannabis qui est encadrée par l'État, alors que, évidemment, les dirigeants politiques aujourd'hui ne sont absolument pas à 62% sur cette position. Donc, ce désir de vitesse qu'il y a, je crois, derrière le référendum, consistant à dire si on utilise le référendum, ça nous permettra de court-circuiter toute la lenteur de la vie politique et des divisions qui sont stériles et qui ne reflètent pas les Français. Qu'est-ce que vous répondez à l'argument selon lequel cette vitesse et ce côté, si vous voulez, très tranché des sondages, en fait, est le signe d'une superficialité de l'opinion publique et d'une superficialité qui est aussi parfois extrêmement versatile et qui pourrait tout aussi bien changer dans l'autre sens, de façon tout aussi tranchée d'ici quelques mois.
Alors, il y a un désir de vitesse, mais il me semble que le plus important, c'est un désir en fait de précision dans les questions qu'on tranche. Typiquement, là, ce sont des questions sur lesquelles les partis politiques, la cartographie des idées politiques n'est pas la même au niveau des électeurs et au niveau des élus. Et je trouve que l'argument qu'a mentionné Mathieu Slama tout à l'heure est intéressant sur le fait que le vote à la présidentielle de 2007 pour Nicolas Sarkozy aurait en quelque sorte annulé le vote de 2005, puisque dans les promesses de campagne de Nicolas Sarkozy, il y avait cette idée qu'il allait renégocier un traité, d'ailleurs où il ne disait pas qu'il allait reprendre exactement le traité constitutionnel européen. Il avait dit quand même qu'il changerait les choses. Mais même admettons que ce soit le cas, les électeurs ne se sont pas prononcés spécifiquement sur cette question-là en votant pour Nicolas Sarkozy. Et c'est tout le problème, c'est que les élections représentatives conduisent à voter pour une personne d'abord, et ensuite pour un programme qui implique tous les domaines de l'action publique. Et donc c'est très difficile de dire que les électeurs ont en fait vraiment voté pour telle ou telle mesure au sein d'un programme. Le grand avantage du référendum, c'est qu'il peut, avec précision, quasiment chirurgicalement, permettre de savoir ce que pensent les électeurs sur telle ou telle notion. Et je pense, contrairement à ce qu'on imagine, que ce serait beaucoup plus durable que, ce que les choix que font les représentants. Là, j'ai vu récemment, je crois que c'était avant l'été, que... les députés RN ont fait adopter un amendement pour relancer la centrale nucléaire de Fessenheim après l'annulation. Bon, je crois que matériellement c'est impossible, mais enfin ça montre que les représentants et le système représentatif n'est pas non plus est tout à fait soumis à la volatilité des opinions et au changement d'avis. Je ne crois pas du tout que ce soit une spécificité des électeurs, au contraire. Donc, à mon sens, tous les arguments qu'on peut faire dans cette nature-là contre le référendum sont encore plus forts contre les élections représentatives.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Deuxième partie de cette discussion sur le référendum. Est-il un outil, un rite inhérent à la démocratie ou au contraire un processus éminemment dangereux qui se déguise en démocratie pour faire avancer des mesures autoritaires? Derrière cet équivoque, je crois qu'il y a une question qui est en fait décisive. Évidemment, qu'est-ce que la démocratie? Alors, si on la définit très simplement, la démocratie, je citais tout à l'heure l'étymologie, c'est le pouvoir confié au peuple. Il n'en demeure pas moins qu'il est éminemment difficile, surtout dans un pays comme le nôtre, avec une population aussi importante, d'envisager qu'il y ait autant de citoyens que de gens qui puissent exercer activement le pouvoir. Et je crois que la grande question qui se pose quand même, c'est celle de remonter à la généalogie du référendum. Le référendum puise-t-il sa source dans l'origine même de la démocratie, à savoir la manière dont dans l'Antiquité, et en particulier dans l'Antiquité grecque, à Athènes notamment, la démocratie a été inventée? Puise-t-il sa source au contraire dans la modernité, c'est-à-dire dans la manière dont certains dirigeants, en France césaristes, les deux Napoléon, Napoléon Ier et Napoléon III, ont essayé, à partir de la démocratie l'un et l'autre, de fonder des empires et donc de supprimer des libertés. Alors, Raphaël Dohan, dans votre ouvrage, vous avez une position, je crois, qui est assez claire, qui consiste à dire que, selon vous, ce qu'on appelle en France démocratie, à savoir une démocratie représentative, est un terme qui n'est pas le bon. Vous pensez qu'on est en République, mais que le terme de démocratie devrait être appliqué véritablement aux démocraties directes telles qu'elles existaient sous l'Antiquité, et vous soutenez la thèse selon laquelle le référendum puise véritablement sa source, et si on veut le penser, dans la manière dont le pouvoir était exercé directement à Athènes par les citoyens. Pourrez-vous nous raconter la manière dont le référendum structurait la vie de la cité à Athènes et en Grèce?
L'idée que la démocratie, ce soit en fait d'abord et quasiment essentiellement la démocratie directe, c'est quelque chose qui faisait consensus quasiment jusqu'au 19e siècle. C'est vraiment, dans la philosophie classique antique, un des types de régime, la démocratie, qui se caractérise, vous l'avez dit, par le fait que c'est le peuple qui exerce non seulement le pouvoir, mais le pouvoir direct. C'est lui qui fait les lois. Donc à Athènes, il n'y a même pas besoin de parler de référendum, en fait, puisque toutes les lois sont adoptées par le peuple. Et quand on parle, par exemple, de tirage au sort dans la démocratie athénienne, en fait, ça ne concerne pas les gens qui vont adopter les lois. C'est seulement, en quelque sorte les fonctionnaires ou les magistrats qui sont chargés de les exécuter, et c'est tout à fait différent. Mais donc, toutes les lois, par principe, sont adoptées physiquement par les citoyens qui vont sur la PNIX pour aller délibérer et voter ensemble. Alors, comme vous l'avez dit, quand on passe à certains stades de population, à certains seuils de population, ça devient plus compliqué à faire. Mais c'est toujours la référence, encore au XVIIIe siècle, quand les philosophes des Lumières pensent à la démocratie, ils voient ça sous l'angle de la cité antique et des démocrates athéniens. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Révolution française, pour une partie des révolutionnaires, n'a même pas prétendu instaurer une démocratie. Parce que pour eux, c'était quelque chose qui était infaisable dans une France de plusieurs millions d'habitants. Et la seule grande figure révolutionnaire qui a voulu vraiment aller vers cet idéal, c'est Condorcet, en fait, qui était d'ailleurs assez cohérent dans son ambition, qui était à la fois d'instruire les citoyens, pour leur donner les moyens d'exercer activement le pouvoir, et pour le suffrage universel direct, et le référendum, et la capacité des citoyens à faire eux-mêmes les lois. Il y a un autre volet de notre histoire, qui est un volet favorable à la représentation. Et en fait, l'ABCIS, par exemple, pendant la Révolution, s'inscrit dans cette lignée, mais lui ne dit pas qu'il est favorable à la démocratie. Et moi, ce que je veux faire, en fait, tout simplement, c'est de revenir à cette définition, disons, 18e et antérieure de la démocratie et du référendum.
Raphaël Dohan, la thèse que vous donnez, elle pose quand même, je crois, une question. D'ailleurs, vous le citez. Les citoyens athéniens, ils étaient à la fois peut-être, entre guillemets, plus libres que nous, au sens où ils avaient vraiment un pouvoir de décision immédiate, mais, et c'est Benjamin Constant qui l'avait souligné dans son texte célèbre qui s'appelait « La liberté des antiques comparée à celle des modernes », mais ils étaient aussi totalement aliénés à la vie de la cité, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de participer à la politique, et vous racontez que les citoyens qui ne voulaient pas aller voter parce qu'ils avaient tout simplement un travail, qu'ils avaient autre chose à faire, qu'ils avaient envie de vivre autrement que politiquement, il fallait les amener presque de force sur la PNIX pour qu'ils puissent faire leur travail politique. La question qui peut se poser, Lou Fritel, c'est celle de savoir si dans un pays comme la France, c'est-à-dire dans une démocratie moderne, marquée par une liberté qui n'est pas cette liberté à l'antique, est-ce qu'on pourrait attendre des citoyens dans leur intégralité qu'ils aient une participation beaucoup plus active, beaucoup plus régulière sur des questions comme l'écologie, comme le pouvoir d'achat, enfin sur des grandes questions politiques, ou est-ce que c'est une vision qui serait un peu anachronique ?
C'est une vision qui est en tout cas assez idéaliste, en tout cas aujourd'hui. C'est-à-dire que d'abord, vous regardez le taux de participation aux différentes élections, à part aux dernières législatives, c'est souvent extrêmement bas. Vous avez une classe, enfin, des citoyens français qui sont quand même peu guidés vers l'exercice du pouvoir, vers l'explication vraiment dans le détail de ce qui est voté, du fonctionnement aussi de notre démocratie. C'est pas si simple que ça. Donc d'abord, il y aura un vrai travail aussi pédagogique effectivement à faire. Ensuite, on arrive aussi sur quelque chose assez clivant finalement, et c'est là où on retrouve le clivage gauche-droite assez traditionnel, parce que ce qui est intéressant dans justement cette distinction que vous faites entre césaristes d'un côté et athéniens de l'autre, république, démocratie, c'est vrai que à gauche, le discours sur la démocratie directe est beaucoup plus présent, avec une volonté plutôt de démocratie beaucoup plus représentative, peut-être un peu proportionnelle à la rigueur, mais la question, la représentation très verticale qu'on a aujourd'hui dans notre régime, qui est un régime gaulliste et qui est encore une fois une sorte de monarchie présidentielle, ça c'est un régime qui a été forgé par une politique plutôt droitière et qui aujourd'hui s'inspire encore de cette impulsion qui a été donnée en 58. Le gaullisme est aujourd'hui revendiqué par tous les partis de droite. Et c'est pas complètement anodin. L'idée d'une figure d'homme providentiel, un Bonaparte moderne, n'a pas quitté une bonne partie des représentants de la droite. Et en l'occurrence, c'est pour ça aussi que la question du populisme, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, se marque beaucoup plus aussi à droite. Parce qu'effectivement, c'est souvent le culte de l'homme fort qui harangue les foules, qui les emballe et qui les fait aller dans son sens. Et en cela, c'est vrai que la question du référendum tel que on l'a en 5e République de façon sporadique, tous les deux ans à peu près, ça fonctionne parfaitement bien. Quand vous arrêtez pendant 20 ans, vous avez une demande beaucoup plus forte avec une volonté effectivement de démocratie directe, voire de vote régulier sur tout un tas de sujets, mais parfois des sujets qui n'ont peut-être pas forcément tant d'intérêt que ça. Il faut aussi savoir viser ce qui pourrait concerner le citoyen.
Alors, c'est intéressant parce que, Mathieu Slama, vous, si vous étiez contre le référendum, si j'ai bien compris, c'est avant tout pour une raison historique. Ça veut dire que vous ne partagez pas la généalogie qui est faite par Raphaël Dohan, consistant à dire le référendum, c'est une sorte de restauration de la démocratie dans son essence, dans ses origines, dans sa pureté. Selon vous, le référendum a été introduit dans la modernité par des gens qui étaient sinon des ennemis de la démocratie, du moins des individus qui voulaient arriver au pouvoir en se déguisant en démocrate ou en républicain pour mieux les supprimer, à savoir par Napoléon Ier, Napoléon III. Que pourriez-vous vous dire sur cette généalogie-là ?
Oui, c'est vrai que c'est contre-intuitif de se dire que le référendum est l'adversaire en fait de la démocratie et surtout de l'idéal démocratique et de tout ce qu'on entend derrière cet idéal. Et c'est vrai que l'histoire nous l'a montré quand même. Alors on a parlé d'Athènes, mais moi je crois que le point de départ de la manière dont le référendum construit en tant que plébiscite, c'est Rome. Et c'est quand même à Rome que le plébiscite a été utilisé pour outrepasser les assemblées et asseoir, une dictature plus forte. Quand, des siècles plus tard, Napoléon Ier devient premier consul, devient ensuite empereur, c'est par le plébiscite qu'il le fait. C'est par le plébiscite qu'il détruit l'idéal révolutionnaire et l'idéal donc démocratique qu'il y avait derrière. Et on parlait du général de Gaulle. Bon, je rappelle que la Ve République, c'est une république qui est née dans un contexte colonial quand même, dans une crise coloniale au cours de laquelle un homme arrive. Et dans un contexte assez peu quand même démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une suspension quand même de toutes les règles de droit pendant au moins 6 mois, arrive et dit « je vais reconstruire une constitution ». Et de Gaulle, son idée, c'était quand même d'avoir un référendum qui puisse assurer, il le disait lui-même, le rapport du président au peuple. C'est-à-dire, il faut que la Ve République soit d'abord construite autour du président de la République et de sa légitimité qui lui vient du peuple et seulement du peuple. Et il y avait quoi dans ce discours-là ? Il y avait une hostilité, je ne dis pas que de Gaulle est un dictateur, attention, absolument pas, mais il y avait quand même chez lui cette hostilité des corps intermédiaires, l'hostilité envers les partis, l'hostilité envers les certains contre-pouvoirs, alors même d'ailleurs qu'il a prévu ces contre-pouvoirs dans la Ve République, donc comme quoi le personnage est complexe. Mais, et d'ailleurs, je ne pense pas que de Gaulle aurait été d'accord avec la manière dont le Conseil constitutionnel fonctionne aujourd'hui, et donc c'est là aussi où de Gaulle avait cette vision assez verticale du pouvoir. Donc l'histoire nous montre en fait que le référendum a souvent été un outil d'autoritarisme et en fait une manière d'évacuer finalement les corps intermédiaires, les contre-pouvoirs de la scène politique. Et moi, ce que je trouve important dans la démocratie, c'est quand même, je le redis, c'est l'état de droit. C'est le fait que nous sommes des citoyens, tous, ici autour de la table, les gens qui nous écoutent, on vit dans un système politique qui protège nos droits. Voilà. Et un système politique qui protège nos droits, c'est un système politique qui empêche le pouvoir. Je crois que c'est Montesquieu qui disait il faut empêcher le pouvoir d'avoir du pouvoir ou quelque chose comme ça. Bon, c'est ça aussi la démocratie, c'est de garantir aux citoyens que le pouvoir ne va pas attenter à ses libertés, ne va pas tomber dans l'arbitraire, lui enlever certains droits qu'il a, qui sont inaliénables, qui sont protégés par la Constitution, et ces mêmes droits qui sont protégés donc par des contre-pouvoirs. Et moi, ma vision de la démocratie, c'est vraiment celle-là. C'est l'idée que nos droits, et on y viendra peut-être dans la dernière partie, mais nos droits fondamentaux, nos libertés fondamentales, personne ne peut y toucher. Personne, y compris au nom du peuple, au nom de ce que l'opinion publique dit à un moment T. Voilà, quand l'opinion publique dit, et je m'en arrête là, je suis trop long, mais quand l'opinion publique nous dit qu'il faut le retour de la peine de mort, la démocratie, l'état de droit dit non. L'opinion publique veut en majorité le retour du bagne, j'en sais rien, voilà, l'état de droit est là pour dire non. Et ça, je pense que c'est un acquis aussi de la Révolution française, finalement, qui est extrêmement important.
Oui, alors, mais il y aurait deux lectures possibles de l'usage qui a été fait du référendum par les césaristes. Prenons l'exemple de Napoléon III. Première lecture, Napoléon III a utilisé, d'ailleurs, il appelait pas ça référendum, c'était des plébiscites, le plébiscite pour supprimer la Deuxième République et en faire un empire où, en supprimant toutes les libertés, en emprisonnant les opposants politiques, etc. D'ailleurs, en tout cas, la plupart, les deux premiers plébiscites qu'il a organisés, c'était autour de ses propres pouvoirs. Deuxième lecture possible, Napoléon III est celui qui a habitué les Français à voter régulièrement. Tant et si bien, d'ailleurs, juste avant de chuter, en 1870, il y a un plébiscite sur la question de savoir si les Français approuvent son empire, et la majorité de Français, à 82%, sont favorables à son empire. Et d'ailleurs, après, quand la Troisième République est instaurée, il y a pendant 5 ans une période de flottement où une partie très importante des citoyens était favorable à des partis plutôt monarchistes, et donc la Troisième République n'était pas sûre de tenir. Raphaël Dohan, comment vous répondriez à cet argument selon lequel le référendum a aussi, ou son ancêtre le plébiscite, a aussi été utilisé par des gens qui, de façon rusée, de façon intelligente, se sont appuyés sur cet outil-là pour détruire des républiques. Et il y a au moins deux précédents dans l'histoire de France.
D'abord, je distinguerai entre la plupart des référendums qui, normalement, encore une fois, sont là pour adopter des projets de loi sur des sujets précis et, effectivement, ce qu'on a fini par appeler le plébiscite, qui consiste à assurer la légitimité personnelle de quelqu'un. C'est quand même très différent de comparer les plébiscites de Louis-Napoléon Bonaparte, qui portent tout sur sa propre personne, à chaque fois, et sur son propre pouvoir, et par exemple le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie par le général de Gaulle, qui ne porte pas sur sa personne et qui porte sur un vrai dilemme à trancher. Donc je trouve que c'est déjà deux choses absolument différentes, et que le référendum est d'abord la deuxième option plutôt que la première. Ensuite, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cette vision de l'histoire selon laquelle, systématiquement, la démocratie directe en général mènerait au césarisme et au pouvoir autoritaire. D'abord parce qu'à Rome, ce n'est pas de cette manière que le principat s'est instauré, ne serait-ce que parce que les comices fonctionnaient toujours et qu'il y avait toujours une part démocratique du régime au quotidien dans l'administration romaine. Ensuite, parce que au XIXe siècle et au début du XXe siècle, il y a eu beaucoup de pays qui ont adopté des procédures référendaires. Je pense évidemment à la Suisse, mais aussi aux États-Unis, dans des États au sein des États-Unis d'Amérique, qui ont des systèmes de référendums qui sont d'ailleurs très développés, dont on parle peu en Europe, mais qui conduisent à des situations, par exemple, où lors des dernières élections présidentielles américaines, certains États peuvent voter à la fois à l'élection présidentielle pour Donald Trump et le même jour voter pour le renforcement du droit à l'avortement, ce qui pourrait paraître contre-intuitif, mais ce qui révèle bien que le référendum permet justement de distinguer entre les questions de fond et les questions de personne. Donc, de ce point de vue-là, moi, ça me paraît même plutôt quelque chose d'anti-autoritaire, en fait, de permettre de distinguer les véritables sujets de la superficialité des questions de personnes. Donc je ne suis pas du tout convaincu par cet argument, disons, historique contre le référendum. Et aujourd'hui, je trouve qu'à la limite, la classe politique, précisément, en a peur, parce qu'elle a peur d'être désavouée par le référendum. On est quasiment dans la logique inverse de ce qui animait la Troisième République. Sous la Troisième République, on avait peur du référendum parce qu'il risquait de donner trop de pouvoir à la personne qui gouverne. Aujourd'hui, clairement, les gouvernants ont peur de se voir démentir par le référendum.
Juste une phrase, mais quand vous dites que la classe politique en a peur, c'est pas tout à fait vrai. Le Rassemblement national en France se fait le héros a été du référendum, mais beaucoup plus.
Mais même Emmanuel Macron en parle. Emmanuel Macron en parle aussi, mais il l'évoque peu, mais il ne le convoque pas.
Ça veut bien dire quelque chose si ce sont les partis populistes, et notamment l'extrême droite, qui se font les héros du référendum, parce que il y a aussi une idée sous-jacente derrière.
Le MoDem n'est pas un parti populiste. Pourtant, il s'en fait aussi le porte-voix.
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Troisième partie de cette discussion qui commençait à s'enflammer sur la question du référendum à mesure que nous rentrions dans le concret. Quel parti politique défend aujourd'hui en France la réintroduction du référendum? Bon, pour dire les choses clairement, est-ce que aujourd'hui vouloir le retour du référendum, c'est être populiste? Est-ce que c'est être, entre guillemets, d'extrême droite ou d'extrême gauche? Mais est-ce que surtout c'est être populiste? Alors, pour poser cette question, j'aimerais qu'on parte d'une expérience de pensée qui est très simple. On a aujourd'hui des enquêtes d'opinion régulières qui montrent que, à minima, une bonne moitié de la population française, et dans certaines enquêtes, ça monte jusqu'à 55%, est favorable au rétablissement de la peine de mort. Et d'ailleurs, depuis son abolition en 81, globalement, les Français n'ont pas accompagné cette évolution, puisque à peu près toujours une moitié s'est exprimée en étant favorable à sa réintroduction. Alors, face à cette situation, on a une question qui est très simple. Si l'on décidait de rétablir le référendum, on voit très bien le risque de backlash, c'est-à-dire de retour sur des libertés, de régression, que cela pourrait engendrer. Danger que, par le vote, on recule sur une liberté fondamentale, qu'on régresse dans l'acquisition de nos droits, en somme, qu'on prenne une mesure antidémocratique, au nom de la démocratie. Certes, mais en un autre sens, ceux qui vont être tentés de dire l'opinion publique étant favorable à la réintroduction de la peine de mort, il ne faut surtout pas qu'elle s'exprime sur ce sujet. Est-ce que cela ne signifie pas, Mathieu Slama, que en fait, ce que vous remettez en cause, par exemple là, c'est le principe même, le mot même de démocratie? Parce que j'ai l'impression, à vous écouter, que par exemple, ce que vous défendez aujourd'hui, c'est plus l'état de droit. C'est plus le caractère inaliénable des libertés, la démocratie représentative en un sens, que, en tout cas selon l'étymologie, l'idée que le peuple devrait exercer le pouvoir.
Alors, vous savez, moi, je pense que quand on parle de démocratie, on a toujours tendance à se focaliser sur la forme. On parle toujours de forme, on parle de qui vote pourquoi, qui vote pour qui exerce le pouvoir, etc. Mais la démocratie, c'est pas que ça. La démocratie, c'est le fond. C'est quel est l'idéal démocratique? Et l'idéal démocratique, c'est la justice, c'est les droits, c'est le progrès des droits, c'est les droits fondamentaux, les libertés fondamentales. Toute l'histoire de la démocratie, c'est l'histoire des progrès des libertés fondamentales, les progrès des droits humains, alors qui ont, comme j'aime beaucoup ce mot que vous employez, le mot de backlash, il y a toujours des backlash. Aujourd'hui, nous vivons une sorte de backlash avec Trump aux États-Unis, les populismes en Europe. Mais enfin, la démocratie, c'est pas une forme politique vide de tout contenu. La question de l'amélioration de la vie humaine, le progrès humain, comment on vit mieux en société, comment on accorde plus de droits aux minorités, etc., etc. Et vous savez, Tocqueville disait, c'est resté célèbre, que le risque de la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Et je crois qu'on a là l'analyse la plus fine qu'on puisse avoir sur la démocratie. À partir du moment où la démocratie et c'est ça le référendum. Le référendum, d'une certaine manière, c'est la dictature de la majorité qui s'applique sur les minorités. Ben moi, je crois le contraire. Je crois que la démocratie, c'est les minorités, c'est la protection des minorités. La démocratie, le système qui protège les minorités de la majorité et qui, encore une fois, protège les droits fondamentaux. J'ai un exemple en tête, si j'ai encore une minute. Justement, en lien avec un exemple qu'on donne souvent, c'est la Suisse. On dit toujours la Suisse, c'est formidable, c'est un système politique dans lequel il y a l'initiative populaire, les référendums, etc., qui permettent de faire progresser la démocratie en Suisse. Et ben, en 2009, il y a eu une initiative populaire initiée par la droite populiste sur la construction des minarets.
Oui.
Cette initiative populaire a fait l'objet d'une campagne épouvantable de islamophobe, avec une montée du racisme, de l'intolérance, etc. Ça a été un moment épouvantable, et même en France, on a assisté à ça, et beaucoup de gens, de tout parti politique un peu humaniste, se sont inquiétés de ça. L'interdiction de la construction des minarets l'a emporté, à la suite d'une campagne donc populiste épouvantable, et on voit là, je crois, dans cet exemple précis, indépendamment de ce résultat, hein, quoi qu'on en pense, mais on voit là la manière dont le référendum peut être aussi un outil, encore une fois, fait appel à des affects particulièrement mauvais et à une opinion publique chauffée à blanc. Voilà.
Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Et en effet, c'était l'objection fondamentale que je voulais avoir avec vous, Raphaël Dohan. À savoir que dans le référendum et dans ce rêve, dans ce fantasme de la démocratie directe, je pense qu'il y a plusieurs risques. Un premier risque qui est que, alors j'ai pris l'exemple extrême de l'abolition de la peine de mort, je pense pas qu'on arrive là demain matin dans la vie politique française, mais cet exemple extrême, il est intéressant, où une majorité de la population, avec souvent une campagne politique de certains partis sur l'insécurité, qui est parfois instrumentalisée, qui est parfois utilisée pour dénoncer une politique pénale qui peut être jugée comme laxiste, etc. Bon, là, une majorité de la population serait prête, manifestement, à supprimer un droit, et c'est central. Prenons un deuxième l'exemple que vous donnez, celui de la tyrannie de la majorité, ce concept de Tocqueville, il est en effet aussi très important, parce que la démocratie, en tout cas à l'antique, la démocratie dans son sens étymologique, de dire c'est uniquement 50,01% du peuple à qui on va donner gain de cause, qu'il ait raison ou tort, évidemment que ça me semble présenter un risque d'écraser des minorités qui n'auront aucune arme pour se défendre. Et le troisième risque, et la troisième objection qu'on pourrait avoir, et c'est une vraie interrogation que je voulais vous adresser, c'est, voilà, une campagne électorale. On le voit dans la vie politique française, quand il y a des campagnes électorales qui portent sur des individus, que ce soit les élections présidentielles, législatives, etc. On l'a vu aussi lors de campagnes électorales qui concernent des référendums, vous citiez l'exemple de Suisse, ça peut être un lieu de toutes les manipulations possibles, manipulations qui peuvent venir de l'étranger. On sait comment la Russie a voulu s'interférer dans les processus électoraux dans beaucoup de pays occidentaux. Comment défendre le principe du référendum en répondant à ces risques que je viens d'énumérer? Ou est-ce que vous assumez de dire, à la limite, au nom de la démocratie, nous sommes prêts à prendre tous ces risques, le peuple peut entre guillemets mal voter, mais faisons-le voter quand même, quoi qu'il en coûte.
Oui, moi je pense que la démocratie, effectivement, comporte des risques, mais que essayer de dire que en fait, la démocratie, c'est le contraire de la démocratie, n'est pas la solution. Quand j'entends Mathieu Slama dire que la démocratie, c'est l'état de droit, c'est la protection des minorités, j'ai envie de trouver un autre mot, en fait, dans ce cas-là, c'est de dire que c'est peut-être l'oligarchie, si c'est vraiment le pouvoir des minorités, enfin, ou au moins la protection des minorités. Parce que cette démocratie, ça veut littéralement dire le pouvoir du peuple, et la meilleure manière qu'on ait trouvée pour faire trancher au peuple une question, c'est précisément la majorité. Je pense que là, il y a deux notions qui se font face, c'est le libéralisme politique et la démocratie. Le libéralisme, effectivement, dans la tradition des Lumières, implique la séparation des pouvoirs, la protection des droits individuels. Tocqueville s'inscrit dans cette logique, et Tocqueville, d'ailleurs, ne dit pas que la démocratie sait protéger les minorités. Il reconnaît lui-même que la démocratie, c'est le risque de la dictature de la majorité. Je peux entendre qu'on dise qu'il faut mettre des limites à la démocratie, mais pas que la démocratie sait ses limites, justement. Et par ailleurs, je pense que les risques en question sont quand même en fait plus faibles qu'on ne le croit. J'ai moins peur, justement, de backlash, comme vous le dites, que d'autres. En Suisse, par exemple, il y a eu un référendum sur la peine de mort, c'était en 1938, pour l'abolir. Et c'est comme ça que la peine de mort a été abolie en Suisse, c'est par un référendum. Et il y a eu deux tentatives ultérieures au cours du XXe siècle pour réinstaurer la peine de mort et qui n'ont pas abouti. Donc, je ne suis pas certain, même s'il y a des sondages à un instant T qui disent que les Français seraient plutôt favorables à la peine de mort, que s'il y avait un vrai référendum après une campagne de fond, on aboutirait effectivement à une réinstauration de la peine de mort en France. Et je pense que c'est le cas sur beaucoup d'autres sujets. En fait, j'ai plus confiance dans le peuple français, en l'occurrence, que d'autres. Et par ailleurs, surtout, je n'ai pas de... En fait, qu'est-ce que c'est qu'un droit dans une société qui serait contestée par la majorité des membres de cette société? Enfin, est-ce que c'est un droit qui tient encore? Quelle légitimité a-t-il? Est-ce que ce n'est pas un privilège dans ce cas-là, littéralement, en fait? Si jamais... Comment peut-on faire tenir une société et un état de droit s'il n'y a pas un consensus assez large sur l'existence même de cet état de droit? Et ça, je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est la grande tension qu'on a. Et c'est pour ça que le référendum peut paraître, pour certains partis populistes, une manière de court-circuiter l'état de droit. C'est parce que, précisément, peut-être qu'une grande partie de l'état de droit, aujourd'hui, dans ses applications concrètes, n'est pas perçue comme étant légitime.
Lou Fritel, nous allons avoir besoin de vous. Entre Mathieu Slama et Raphaël Dohan, qui est le vrai démocrate?
Ce qui m'interpelle, c'est... vous connaissez la théorie du temps cyclique, du temps poétique cyclique de Polybe, donc l'idée que la royauté donne la dictature, qui donne l'aristocratie, qui donne l'oligarchie, qui donne la démocratie, qui donne l'oclocratie. Et en fait, on se trouve aujourd'hui dans ce débat, est-ce que nous sommes en démocratie, est-ce que nous risquons l'oclocratie, c'est-à-dire la dictature par le peuple? D'ailleurs, c'est un mot qui est revenu dans les dictionnaires au moment des Gilets jaunes. Et c'est vrai qu'il y a un paramètre, en revanche, à prendre vraiment en compte, c'est la massification des réseaux sociaux aujourd'hui. Et un exemple très moderne, c'est le parti de Pepe Grillo en Italie, qui est le mouvement 5 étoiles, qui reposait complètement sur le vote des internautes et des sympathisants pour décider du programme. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés au pouvoir et qu'ils ont réussi à mettre en place un vrai mouvement populiste au sens pur du terme. Ça n'a pas duré très longtemps. Aujourd'hui, c'est un parti de gauche plutôt classique.
Merci beaucoup à tous les trois. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr. Merci à Olivier et Ludovic à la réalisation.